Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je suis très heureux de fêter avec vous cette magnifique solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Je crois que nous avons là la quintessence de la révélation de Dieu à l'égard de l'humanité, puisque dans l'Ancien Testament, tout portait sur la révélation du Dieu unique, puisque avec Jésus-Christ advient la révélation du Dieu trinitaire, et que après la mort de Jésus-Christ, nous avons cette fine fleur, cette fine pointe de la révélation, j'allais dire révélation posthume, parce que Jésus est déjà mort, quand advient ce que l'évangile d'aujourd'hui relate, le flanc du Christ qui est percé, et de son cœur, du sang et de l'eau. Alors j'essaye de vous expliquer en quoi il s'agit là de la fine pointe de la révélation divine. Dans l'Ancien Testament, Dieu unique. Ce Dieu unique, c'était déjà une révélation tout à fait splendide. C'était déjà quelque chose de tout à fait nouveau pour des peuplades qui étaient, pour la plupart d'entre elles, polythéistes ou qui n'avaient pas grande idée sur ce principe unique, cause de toute chose. Voilà que Dieu se manifeste devant Abraham et surtout devant Moïse dans le buisson ardent en lui disant « Je suis celui qui suis. Je suis la plénitude d'être. Et que fais-je? Je m'occupe de mon peuple. » Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je crois, lors d'une homélie. « Je m'occupe de mon peuple, vous avez du prix à mes yeux. » Autrement dit, je suis l'unique et j'ai soin de mon peuple. Je suis un Dieu personnel qui prend soin de son peuple. Malheureusement, cette révélation du Dieu unique était encore insuffisante et le peuple élu avait, à l'égard de ce Dieu, une relation qui était encore trop servile. Il a donc fallu que Dieu se révélât trois personnes. Pourquoi cette révélation trinitaire est importante? Là encore, je crois vous en avoir parlé il y a très peu de temps. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que cette trinité de personnes dans le Dieu unique introduit une dynamique, introduit une possibilité qu'existe des relations au sein de ce Dieu unique. Voyez-vous, on passe d'un Dieu monolithique, d'un créateur et d'un juge qui a quelque chose de statique et de redoutable, à un Dieu dans lequel est introduit, dans lequel existe une pluralité, existe une vie, si vous voulez, une vie interne et un amour entre ces trois personnes. Voilà ce que, si l'on pouvait éteindre les portables, je serais tout à fait reconnaissant. Voilà. Cette révélation du mystère trinitaire, donc, nous fait comprendre que Dieu n'est pas seulement statique en face de nous, qu'il n'est pas un roc, un monolithe, mais qu'il est un Dieu dans lequel existe une vie, dans lequel existe un amour mutuel, un amour infini entre les trois personnes. Ce n'est que quand Dieu est révélé comme trois personnes que Saint Jean ose ce mot « Dieu est amour ». C'est-à-dire que l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Mais avouez, mes bien chers frères, que, et nous avons fêté cette solennité il n'y a pas longtemps, celle de la Trinité, avouez que ce mystère trinitaire nous passe là. Nous nous demandons bien souvent, mon Dieu, que vous soyez trois personnes, c'est très beau, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je me signe à chaque fois sans même y songer d'ailleurs, et je suis très heureux de pouvoir chanter les louanges du gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais enfin, concrètement, mon Seigneur, pour la vie spirituelle qui est la mienne, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut bien reconnaître qu'effectivement, le mystère trinitaire, même s'il nous permet rationnellement de concevoir qu'il introduit en Dieu une pluralité, un dynamisme, et que l'amour est possible entre ces trois personnes, et que donc je n'ai pas à avoir peur de ce Dieu qui n'est qu'amour, tout cela est très abstrait. C'est pourquoi Dieu a permis que soit relatée la fine pointe de sa révélation, celle du Sacré-Cœur, qui nous est aujourd'hui offerte par l'évangile de Saint Jean. Après que Jésus est mort sur la croix, un soldat vient planter sa lance dans le flanc du Christ et le cœur de Jésus nous est manifesté comme acceptant cette ultime humiliation. Voyez-vous, je crois qu'ici nous touchons à l'essence même de Dieu. Il n'est pas seulement amour, disons, un amour éthéré ou un amour qui serait très au-dessus de nous, parce que l'on aurait un Dieu qui a créé par amour, bien sûr, mais enfin qui demeure le Très-Haut, qui demeure le tout autre. Nous avons là, avec cette révélation, un Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous, qui s'est fait vulnérable et qui a accepté de se faire bafouer, de faire violer son corps, de faire transpercer son cœur. Car vous le savez sans doute, dans la culture sémitique, le cœur ce n'est pas n'importe quoi. Le cœur, c'est la place de l'âme. Alors, le soldat romain n'en avait pas conscience, mais Saint Jean, lui qui est juif, lorsqu'il relate ce fait du cœur de Jésus qui a été transpercé en appelle à toute l'émotion des Juifs. Il leur montre jusqu'où le Seigneur a accepté d'aller pour les sauver, voyez-vous, jusqu'à quel abaissement il a accepté d'aller. Que le centre même de son être soit percé par ce vil païen, voilà ce qu'il en coûtait à Jésus pour que son peuple juif et partant toute l'humanité soit sauvé. Je crois que nous avons avec vraiment le cœur de Jésus transpercé, que nous célébrons aujourd'hui, une plus grande motivation encore, une raison encore plus profonde et puissante de nous tourner vers ce Dieu avec une confiance absolue. Jésus a accepté d'aller jusque-là. Dieu a accepté de devenir l'un d'entre nous et d'aller jusque dans ses ultimes retranchements de miséricorde, de gratuité et de bonté. Voyez cette logique, le Dieu unique, le Dieu trine et Jésus blessé jusque dans son cœur. Et je crois qu'il y a donc là une grande consolation, mes frères, à contempler le cœur de Jésus. Et aujourd'hui, dans un monde si froid, dans un monde où le pardon n'existe pas, dans un monde où on se raille de tout et de tous en permanence, il est, je crois, capital, avant de défendre rationnellement les preuves de l'existence de Dieu, avant d'essayer d'introduire les hommes à la vérité pleine et entière, de façon intellectuelle, toute chose belle et nécessaire par ailleurs, avant de faire de l'apologétique, il faut les placer devant le cœur de Jésus. Regarde jusqu'où a été celui qui se prétendait le Fils de Dieu. Est-ce que ça ne te fait pas quelque chose à toi ? Et croyez-moi, peu de personnes auront le cynisme ou la froideur de vous dire « je m'en fous ». Ils ne pourront que être touchés par la conduite de cet homme. Même s'ils ne reconnaissent pas là le Fils de Dieu, ils reconnaissent en Jésus une figure extraordinaire. Quelqu'un qui va jusqu'à pardonner en croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et qui se laisse humilier en se laissant transpercer le cœur. Comment voulez-vous que nos contemporains restent totalement hermétiques à cette bonté divine ? Il y a donc quelque chose de consolant. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement exigeant, en réalité. Jésus-Christ n'est pas un bisounours. Jésus-Christ n'est pas un bisounours, je le répète. S'il nous montre son cœur sur son flanc, si on voit ses représentations sulpiciennes, pas toujours très heureuses, j'en conviens, il ne faudrait pas croire que nous avons là un Jésus qui n'attend de nous rien en retour. Bien sûr que non. Qu'est-ce que la logique du Sacré-Cœur, mes frères ? Mais c'est cette logique qui doit nous chatouiller, qui doit même nous déranger. C'est Jésus qui nous dit « toi qui crois être quelqu'un de bien ». Toi qui te dis, qui porte mon Sacré-Cœur d'ailleurs sur tous tes blasons, sur tous tes drapeaux, tu fais bien mon fils. Mais toi qui te revendiques du christianisme et de moi Jésus, qui te prend pour quelqu'un de bien parce que tu vas à la messe tous les dimanches, parce que tu te confesses plusieurs fois par an, parce qu'enfin tu lis un peu l'évangile, bref, tu essayes d'ordonner un peu ta vie en chrétien, avoue que au fond de ton cœur, au fond de ton âme, il y a une certaine fierté un peu déplacée. Avoue que tu crois que tu es déjà un saint. Alors regarde-moi, lorsque ce genre d'envie mal placée te prend, lorsque ce genre de tentation te picote, regarde donc l'image de mon Sacré-Cœur et dis-moi où tu en es par rapport à ma générosité. Tant que tu n'as pas été blessé jusqu'au cœur, tant que tu n'as pas accepté dans ton cadavre même de te faire bafouer comme moi qui suis le Saint, qui suis le Très-Haut, j'ai accepté de le faire, alors tu n'es pas encore chrétien et encore moins un saint. Alors arrête de frimer, arrête de prétendre que ma foi, toi tu es quelqu'un de bien et que les autres n'ont rien compris. Vous voyez, je crois qu'il y a là, dans la figure du Sacré-Cœur, quelque chose de très consolant, en même temps qu'un reproche. Mais finalement, c'est tout Jésus. Lorsqu'on lit l'Évangile, c'est exactement cette double caractéristique qu'on reconnaît dans le discours du Maître. Une très grande bonté, en même temps qu'une très grande exigence. Je suis, comme disait Jean-Paul II, en reprenant tout simplement, en essayant de synthétiser les paroles de Jésus, je suis un ami, certes, mais un ami exigeant. Voilà ce que disait Jean-Paul II aux jeunes des Journées mondiales de la jeunesse, où je me trouvais. C'est tout à fait ce qu'on pourrait trouver sur les lèvres de Jésus. Et c'est tout à fait ce que nous devons célébrer, ce que nous devons avoir présent à l'esprit lorsque nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, mes frères, le peu de considération que je voulais vous apporter aujourd'hui en contemplant Jésus, en comptant qu'il n'y a plus non plus d'octave du Sacré-Cœur, pas plus qu'il n'y en a du Saint-Sacrement, pas plus qu'il n'y en a de la Trinité, on a fait disparaître tout ça, et pourquoi pas, mais gardons présent à l'esprit cette magnifique image du Sacré-Cœur de Jésus, quelle que soit l'imperfection de sa réalisation, nous sommes d'accord, les lèvres roses et les yeux bleus de Jésus, les cheveux blonds, je demande à voir, la réalité devait être tout autre, peu importe, passons outre et regardons le cœur de Jésus, qui doit nous consoler en même temps qu'il doit nous appeler à aller plus loin, à avancer en eau profonde, tant que nous n'avons pas tout donné, mes frères, nous n'avons rien donné. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.